Dans ce journal, on parlera de l'affaire rocambolesque du cinéma Liberty. On reviendra sur l'interview de Naïma Temari qui était sur nos antennes hier, de la CTC contente de Papé Été et des grèves. Le journal de 7h, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
On commence Lucie avec cette affaire rocambolesque du cinéma Liberty.
Ça s'était passé un soir de janvier 2022. Deux coups de feu avaient été tirés aux abords du cinéma et 5 hommes comparaissaient hier. Le procès a permis de mettre en lumière les circonstances de cette affaire. Une double escroquerie sur fond de trafic d'ice avant une rencontre fortuite et une expédition punitive totalement improvisée. Les explications de Valdemar Delage.
Oui Lucie, l'affaire ne se résume pas à ces seuls coups de fusil. Tout débute quelques jours plus tôt. Jere Moana, un employé polyvalent au cinéma et consommateur occasionnel d'ice, se sent l'envie d'un petit trip. Alors à la recherche d'un dealer, il contacte un ami Temaya qui flaire l'argent facile. Ce dernier lui propose alors un achat groupé. Chacun d'entre eux pose 200 000 francs sur la table. Deux autres clients doivent apporter 400 000 et la promesse d'un joli petit paquet de cristal semble proche de se réaliser. Sauf que Temaya n'a jamais eu l'intention de faire l'usage prévu de cet argent. Son but, c'est surtout de s'en mettre plein les poches aux dépens d'amis un peu trop naïfs.
Et cette arnaque, il l'a pensé quelques jours plus tôt avec un contact de la mission, un dénommé Ben, un homme au rôle bien particulier.
Oui, et pourtant les deux hommes venaient tout juste de s'en rencontrer. Alors une fois l'argent collecté, Temaya s'est donc empressé de le mettre au chaud. Il a confié cette tâche à ce fameux Ben. Son rôle, la remettre à un collègue, moyennant 30 000 des 1,2 million de francs. Qu'importe si le deal est trop beau, Temaya y croit, il laisse les liasses entre les mains de celui qu'il ne connaît que depuis quelques jours. Sauf qu'un peu plus tard, Jere Moana, l'acheteur initial, commence à trouver le temps long. Il reprend contact avec Temaya qui lui, bien, n'a plus de nouvelles de Ben. Il comprend tout juste qu'il vient de passer d'arroseur à arrosé. C'est alors le début d'intenses recherches puisque Ben, lui, s'est fait remarquer. Il a flambé tout l'argent volé en ice, en prostituée et en alcool.
Et c'est alors qu'une rencontre hasardeuse va tout déclencher.
Oui, nous sommes alors le 25 janvier. Les recherches se sont essoufflées et Jere Moana a pris son service au Liberty. Et là, surprise, il voit Ben discuter dans la rue avec deux amis. Alors les deux hommes, ils se connaissent, mais Ben ne sait pas que l'employé du cinéma fait partie des pigeons de l'histoire. Ben et ses amis décident ensuite d'aller dîner. Ils sollicitent le concours du vigile pour garder un scooter. Sauf que le vigile, ce qu'il fait, c'est qu'il s'empresse de prévenir Temaya, qui mobilise ensuite son cousin, un ami qui vient accompagné d'un autre ami, le fameux Enohate, qui n'est pas venu les mains vides. Sur le parking où se retrouve la bande, il fait la démonstration d'usage d'un fusil à pompe qu'il présente avec des munitions. Sans trop se poser de questions, l'équipe file vers la capitale et récupère au passage le frère aîné de Temaya, un certain Rudy, qui n'avait jusque-là pas grand-chose à voir dans ce micmac.
Et une fois sur place, c'est là que l'idée d'un guet-apens se met à germer.
Oui, Temaya et sa bande attendent près de 50 minutes avant de voir Ben et ses amis revenir de leur dîner. Ils viennent donc chercher leurs deux roues au fond de l'impasse, mais voient surgir Temaya se lancer à leur poursuite. Il est suivi de Johnny, puis il se place devant la voiture de l'arnaqueur qui est alors dans l'impossibilité de sortir de l'impasse. C'est à ce moment-là que Enoha ouvre le feu à deux reprises avec l'idée de crevienver les pneus. Il tire une première fois sur l'aile gauche du véhicule, la seconde dans le pare-choc arrière. Après une course-poursuite, les six hommes rentrent bredouille. Ils finiront par se rendre quelques jours plus tard. Moana n'aura finalement connaissance du rôle précis de Temaya dans l'arnaque qu'après 4 auditions.
Et le procès hier avait donc pour but de déterminer les responsabilités de chacun dans cette affaire. Les 5 hommes présents comparaissaient pour transport d'âme et tentative d'extorsion ou pour complicité en ce qui concerne les prévenus les moins impliqués. Si tous ont été condamnés, 3 d'entre eux sont ressortis libres du tribunal après avoir écopé de peines aménageables. L'instigateur de l'expédition punitive a été condamné à 6 ans de prison ferme et le tireur déjà en détention en a pris 7.
Naïma Temari était l'invitée de la rédaction hier sur Radio 1 et Tiers FM.
La ministre des Sports et de la Jeunesse est revenue sur les JO, un résultat plus que satisfaisant pour le pays et surtout sur l'héritage olympique. La marina rénovée de Tehahupo, la nouvelle passerelle du PK0 et pour le domaine rose, rien n'est encore décidé entre valorisation agricole, sportive ou sociale. Et la fameuse Tour des Juges, bien sûr, emblème à 525 millions de francs des ambitions olympiques et des accros locaux de l'organisation. Son démantèlement a commencé. Elle fait l'objet de discussions entre le pays propriétaire de la structure et la WSL qui devrait l'utiliser pour les futurs Tahiti Pro. Mais elle pourrait aussi être utilisée sur d'autres spots comme Veirao ou Tapuna par exemple. L'essentiel pour Naïma Temari est de tenir compte des leçons du passé et donc d'avancer de manière concertée.
On tire des leçons du passé. L'objectif, c'est pas d'aller faire des fondations n'importe comment, n'importe où. On a fait la démonstration qu'avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'humanité, ben, on se rend compte que finalement, ça fonctionne. Avoir redimensionné cette tour des Juges, ça a permis de ne plus aller sur le récif, sur la barrière de récif avec des grosses machines, mais à main d'homme quasiment, avec quelques outils. Donc aujourd'hui, on sait comment le faire, on sait que c'est faisable, mais il faut concerter la population.
À la Fédération Tahitienne de Surf, donc, de faire des propositions de spots à explorer, aux communautés et collectivités locales ensuite de se saisir du sujet. Il a d'ailleurs déjà été abordé à plusieurs reprises avec le maire de Punaoya, Simplicio Lissan. Après le débat explosif de l'année dernière au PK0, pas question de brusquer qui que ce soit. Les Tavana ne veulent pas s'engager sans avoir concerté leur population, a précisé la ministre.
Mais surtout, Lucie, la ministre nous a aussi parlé du centre de performance imaginé entre la France et la Polynésie.
C'est notamment grâce à l'entremise de Jérémy Flores. L'idée est simple, rapprocher la Fédération française et la Fédération tahitienne de surf pour qu'elles accompagnent ensemble un groupe de jeunes espoirs dans la discipline et que ceux-ci s'exercent à la fois sur les beach breaks métropolitains et les riffs de Tahiti.
Qu'on puisse faire profiter à la fois aux surfeurs polynésiens de pouvoir bénéficier des structures et infrastructures de France, mais aussi d'aller apprendre à surfer sur les vagues de beach break en France métropolitaine, parce que c'est pas les mêmes que chez nous, et à contrario permettre à cette équipe de France de venir s'essayer sur du reef break, puisqu'on a Los Angeles 28 qui pointe le bout de son nez, et puis Brisbane 2032, donc retour des Jeux Olympiques en Océanie, pas chez nous cette fois, mais en Australie. Donc il y a un vrai sujet sur la performance au niveau du surf.
La Fédération nationale développe depuis des années un projet de performance fédérale. Elle anime déjà des pôles espoirs régionaux, un pôle relève aussi, où Aelan Vast et Tia Zebrowski, entre autres, ont suivi une scolarité aménagée ces dernières années. Il y a aussi le pôle de rassemblement de l'élite, situé entre Osgore et Biarritz. On y voit Kaoli Vast et Vahine Fierro notamment. La Fédération française semble désormais convaincue du potentiel du Fénois. Ce projet de pôle de performance a déjà reçu des financements du pays. Reste à Paris de débloquer sa part, mais il faudra probablement attendre un gouvernement central de plein exercice.
Et autre information dans le domaine sportif, les épreuves de natation des Jeux du Pacifique 2027 se passeront à Mamao.
La piscine de Tiperui cinquantenaire n'est plus aux normes. Le pays avait écarté l'idée d'un nouveau complexe aquatique à Aorei et avait envisagé d'installer un bassin temporaire juste à côté de cette piscine municipale. Mais les sols sont trop meubles. Direction donc une parcelle qui se trouve derrière le parc expo de Mamao et qui devrait accueillir deux bassins en inox, un pour la compétition et un dédié à l'échauffement, et au moins un des deux bassins pourrait être implanté de façon pérenne à Tahiti, probablement sur la côte ouest.
On change de sujet avec la Chambre territoriale des comptes qui est plutôt contente de papéité.
Elle a étudié les exercices de 2019 à 2023 et fait plusieurs recommandations. L'adoption rapide d'un nouveau plan d'aménagement, d'une stratégie de développement et d'un plan pluriannuel d'investissement, notamment en mutualisant avec les communes voisines. Papeété en a les moyens financiers, note la CTC, si elle parvient à maîtriser ses charges de personnel. On écoute les grandes lignes avec Caroline Perdry.
L'ancien plan général d'aménagement de Papeété date de 2003. Et la commune a décidé en 2021 de le réviser. Les diagnostics sont faits et la CTC recommande d'adopter le nouveau PGA l'année prochaine en l'accompagnant d'une véritable stratégie quinquennale en matière d'urbanisme, de déplacement et de préservation de l'environnement, si possible en concertation avec les communes voisines. Des voisines avec qui Papeété devrait aussi mutualiser non seulement l'assainissement, mais aussi l'adduction d'eau potable et le traitement des déchets. Tout ça doit s'accompagner d'un plan pluriannuel d'investissement. Et elle en a les moyens car elle a réduit son endettement malgré une progression de ses effectifs de 40% en 5 ans. 690 agents travaillent aujourd'hui pour la mairie, mais comme de nombreuses communes polynésiennes, elles manquent d'encadrement. Édouard recommande la CTC profiter du départ des agents de catégorie C et D pour muscler la part des catégories A.
Et à noter aussi que la Chambre territoriale des comptes recommande de mieux former et informer les élus du conseil municipal. Et enfin, la CTC remarque que 13% des élèves scolarisés dans la commune n'y résident pas. La mairie devrait réfléchir à la refacturation des frais engagés pour l'accueil de ces élèves.
En bref, ça chauffe encore sur le front social.
Et oui, les conflits s'accumulent. Après l'aérien, c'est la Fédération des rassemblements des syndicats de transport en commun terrestre de Polynésie qui a déposé hier un préavis de grève. La revendication principale, la signature de la convention collective. Elle est en négociation depuis plus d'un an et comprend la création d'une grille salariale, le paiement de l'ancienneté ou des mesures de sécurité pour les chauffeurs. Faute d'accord, la grève pourrait être effective lundi prochain. À noter aussi qu'une rencontre a eu lieu hier après-midi entre l'intersyndicale et Air Moana après les deux rencontres similaires chez Air Tahiti et ATN lundi. Les revendications sont les mêmes, salaire, conditions de travail et sécurité des vols. La grève pourrait être déclenchée vendredi et faire monter la pression dans le conflit de l'aéroport. Et d'ailleurs, chez ADT, on se rapprochait d'un accord lundi, mais hier, changement d'ambiance, selon Tahiti Info. L'intersyndicale était de nouveau fâchée et rien n'a finalement été signé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information dans quelques minutes pour la revue de presse.
Merci beaucoup, Lucie. On passe à la météo sur Radio.